Que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen.
Nous le chantons le...
Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi.
Bonjour à tous. Bienvenue pour ce temps de culte, à vous qui êtes présents dans ce temple. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou habitués de ces bancs. Sentez-vous accueillis. Le texte d'accueil qui a introduit ce culte est tiré d'Apocalypse 1, au verset 4 à 6. Alors notre pasteur est actuellement avec notre délégué au synode, Francine Huibert, donc ils sont au synode à Vauguet, en Ardèche, donc pour discuter sur le thème des missions de l'Église, et c'est un thème très important qui est sur 3 années. Dans sa faiblesse, Olivier éclairera pour nous la parole de Dieu, de sa voix puissante, pour en faire ressortir la sagesse, ou pas. C'est le teasing. Pour nous accompagner, merci à l'orgue à l'orgue, c'est mieux dans cet ordre, et à Florence et Yvon Serge qui vous ont accueillis fraternellement. Nous chanterons les spontanés que vous trouverez sur le feuillet en première page du recueil, donc le feuillet, ainsi que les cantiques qui sont affichés au tableau et je vous les signalerai. Des recueils en grand caractère sont disponibles à l'entrée du temple pour les malvoyants. Que chacun puisse recevoir aujourd'hui, avec faiblesse et humilité, ce que Dieu veut lui suggérer. Le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Saint est son nom. Gloire à toi, Seigneur, toi qui fais naître le jour et donne à chaque chose sa saveur. Gloire à toi qui nous appelle à vivre, qui nous fait exister, qui toujours et sans cesse nous fait confiance, qui inlassablement nous tend la main. Gloire à toi pour les signes de ta présence parmi nous, pour le pain partagé, pour l'amitié retrouvée, pour la paix donnée et accueillie, pour l'amour manifesté. Gloire à toi qui nous permet d'espérer, même au milieu de la nuit, qui nous invite à oser dire que la vie est plus forte que la mort, et qu'après la nuit, la lumière va jaillir. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 4605 à la page 718, les 3 strophes.
Mon sauveur, je voudrais être une fleur de tes parvis. Prions pour toi seul, ô maître, puisque par toi seul je vis. Dans le silence répandre le parfum de ton
Mon sauveur, je
pouvez vous asseoir.
Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous sommes trop patients. Notre patience est souvent vide l'attente de passion, d'espérance. Nous sommes patients à supporter ce que toi, tu n'aurais pas supporté. Nous sommes patients à écouter ce que toi, tu aurais refusé d'entendre. Nous sommes patients à refaire ce que tu aurais refusé de faire. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous sommes trop impatients. Notre impatience est souvent vide de sagesse, d'humilité, de paix. Nous sommes impatients d'être approuvés. Toi, tu t'en remettais à Dieu. Nous sommes impatients d'arriver. Toi, tu acceptes nos lenteurs. Seigneur, apporte-nous ta libération. Amen. Et nous restons assis pour chanter « De tous mes maux, il me guérit » le 1204.
De tous mes maux.
Pour accueillir une parole qui nous pardonne tel que nous sommes, je vous invite à vous lever. Quand notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Quand notre intelligence nous fait dérailler, Dieu est plus grand que notre intelligence. Écoutons la parole de l'apôtre. Elle est certainement digne de confiance, cette parole, et mérite d'être pleinement accueillie par tous. Christ Jésus est venu dans le monde pour accueillir les pécheurs dont je suis le premier. À chacun de nous, elle redit explicitement le pardon de Dieu et ouvre une vie libre et responsable. Allons dans la paix du Christ et chantons notre reconnaissance en restant debout pour le spontané du pardon. Ô ma joie et mon espérance.
Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je ne crains, en lui j'espère, je ne crains rien.
Écoutons la volonté de Dieu dans le Siracide 1, versets 25 à 30. Parmi les trésors de la sagesse, il y a les maximes savantes. Mais devoir reconnaître l'autorité de Dieu fait horreur aux gens méchants. Si tu veux obtenir la sagesse, pratique les commandements. Et le Seigneur te l'accordera largement. Reconnaître l'autorité du Seigneur éduque à la sagesse. Ce qui lui plaît, c'est la fidélité et la modestie. Être sincère ne met pas de mauvaise volonté à reconnaître l'autorité du Seigneur et ne vient pas lui dire avec un cœur partagé quand tu t'adresses. Ne viens pas à lui avec un cœur partagé. Quand tu t'adresses aux autres, parle sans détour et surveille ce que tu dis. Ne sois pas prétentieux, sinon tu tomberas, tu attireras sur toi le déshonneur. Et le Seigneur démasquera ce que tu caches. Il t'accablera publiquement d'être venu devant lui sans reconnaître qui il est et avec le cœur plein d'hypocrisie. Et nous chantons le « De ton esprit emplit nos êtres ».
Thank you. de ton esprit, remplis nos êtres, mais pour nous remplis au cœur. Habite-nous, fais-nous connaître, et ta lumière et ta douceur.
Je vous invite à vous asseoir. Nous prions avant de lire les Écritures. Père, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsqu'il nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. Et pourtant, nous revoici ce matin, à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. C'est pourquoi nous te prions que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen.
Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas pu saluer personnellement. Je vais vous lire la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, de 17 à 31. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle. Et cela sans utiliser le langage de la sagesse humaine, afin de ne pas priver de son pouvoir la mort du Christ sur la croix. En effet, prêcher la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais nous qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons la puissance de Dieu. Voici ce que l'Écriture déclare. Je détruirai la sagesse des sages. Je retirerai le savoir des gens intelligents. Alors, que peuvent encore dire les sages ou les gens instruits ou les discours du temps présent? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est folie. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette prédication apparemment folle de la croix. Les Juifs demandent comme preuve des miracles. Et les Grecs recherchent la sagesse. Quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs. Et une folie pour les non-juifs. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien juifs que non-juifs, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse apparente de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez, frères, qui êtes vous que Dieu a appelés. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de gens de nobles origines. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, méprisable, ou ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu. Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse. C'est le Christ qui nous rend justes devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. Par conséquent, comme le déclare l'Écriture, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de ce que le Seigneur a fait. Amen.
Nous chantons.
Le Dieu vivant, l'Esprit créateur rassemble les hommes. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur n'en fait qu'un seul corps. Au jour de Pentecôte, enflammant les apôtres, souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur, emplit l'univers.
Vous aurez noté que dans les cycles de la civilisation, il y a des moments où la théologie fabrique de l'histoire. Et c'est un murmure qui va droit au cœur des hommes. Et puis il y a des moments où c'est l'inverse. Eh bien, quand c'est l'inverse, c'est le fracas des armes qui parle. Et c'est ce à quoi nous assistons. Ce texte de Paul est un développement de son concept de libération par la foi. L'apôtre cherche à se dégager d'une double emprise, celle de la loi mosaïque de Moïse, d'une part, et celle de la pensée grecque, d'autre part. Selon lui, ces deux approches du divin sont néfastes. Elles sont néfastes à la relation directe avec Dieu, à notre justification, à notre reconnaissance par le Créateur. En quoi ce texte nous parle-t-il? Tout le monde se souvient des propos de Paul concernant la loi de la Torah. Je cite les Galates 2:16. « Cependant, nous savons que l'homme est reconnu juste par Dieu uniquement à cause de sa foi en Jésus-Christ et non pas parce qu'il obéit à la loi de Moïse. » Paul s'appuie sur Christ pour se libérer de la loi. La loi, non en tant que telle, mais en tant qu'obstacle au dialogue direct avec le Créateur. La prise de distance, comme il la revendique avec la loi, avec les institutions, nous concerne-t-elle encore aujourd'hui? Nombreux sont les croyants qui pensent désormais par eux-mêmes, et on pourrait croire que le mouvement de libération initié par Paul n'est plus d'actualité. Or, ces mêmes actualités nous prouvent tous les jours que d'organisations religieuses réactionnaires, en conception antique du divin, aucune des religions du livre n'est véritablement sortie des débats qui agitaient déjà la civilisation à l'époque de Paul. Que nous dit le texte de l'apôtre? En ce qui nous concerne, ce jour au plus haut point. Eh bien, il nous dit exactement l'inverse de ce que des millénaires de culture judéo-gréco-latine ont laissé dans nos gènes. Reprenons les choses au départ et plantons le décor. La culture grecque tente désespérément de se représenter la ou les images de Dieu en utilisant la raison, avec un grand R. La sagesse, la philosophie, compose des représentations divines affadies au point de faire exister et agir des créatures mi-humaines, mi-divines, les demi-dieux. Quant aux Juifs, ils attendent de Dieu un regain de puissance. Dieu devrait intervenir miraculeusement en leur faveur en rétribution d'une piété sans faille et tatillonne. Dieu devient alors l'otage de la fidélité de son peuple. Eh bien, Paul évite ces deux écueils. Il nous dit « Vous serez reconnus par Dieu sans avoir recours aux œuvres de la loi et vous serez justifiés en dépit de votre persistance à vouloir raisonner. » Pour ce faire, le voici qui tire un véritable coup de canon. Il prêche le scandale de la croix. Je cite Co 1, 22-24. « Les Juifs demandent des signes, des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et stupidité pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Paul ne nous demande pas d'être humbles, il va bien au-delà. La grâce nous est donnée, mais pour la ressentir, il faudra abandonner toute idée de contrôle, toute tentative de recherche active, toute spéculation reposant sur la raison. C'est par l'abandon, par le lâcher-prise, que notre relation au Créateur se renouvelle. La foi ne se recherche pas, elle se présente spontanément. C'est cette posture qui augure de notre renaissance à Dieu. Or, 2000 ans plus tard, nous voici toujours pris entre, d'une part, l'image d'un Dieu puissant qui peut tout, qui voit tout, qui dit tout, un Dieu protecteur, juge de toutes les actions, et d'autre part, un Dieu qu'on arriverait à se représenter, à s'imaginer à force de raisonnement et de sagesse. Soyons simples. Qui peut vouloir un seul instant d'un Dieu incapable de prévenir l'exécution de son fils ? D'un père absent alors que son fils est en train de mourir de la manière la plus honteuse et la plus atroce ? Qui peut raisonnablement, vouloir d'un Dieu de cette nature ? Or, c'est cette absurdité même qui nous détache du monde ancien. C'est cette stupidité apparente, cette incohérence qui nous libère des chaînes de notre pensée. La psychologie contemporaine a identifié un phénomène redoutable. Par économie, notre cerveau trouve du sens au monde dans ce qu'il nomme la co-incidence. Qu'est-ce que la co-incidence ? C'est la mise en relation automatique, involontaire, entre un événement et son explication. Ainsi, de manière naturelle, nous concevons les raccourcis suivants. Bon comportement égale récompense, mauvaise action égale punition. Or, le monde réel ne fonctionne pas de cette manière. Cette paresse économique de la santé, cet automatisme qui nous rassure, nous prive souvent de notre jugement. Et Paul fait l'inverse. Il fait décoïncider la pensée théologique. Cet électrochoc, cette grâce incroyable qui nous est présentée dans l'apparente impuissance de Dieu, dans sa rétractation au monde, dans le fameux Tzimtzum des Juifs mis en lumière dramatiquement par la Shoah. À Dieu puissant, domination et justice, mais à Dieu créateur, vie et grâce. Yahou fut à l'origine le dieu du tonnerre et des tempêtes dans le Sinaï. Mais celui de Paul est un murmure, une brise à peine perceptible. Paul focalise sa prédication sur la croix. Il nous oblige à penser l'impensable. C'est en fait le miracle de la bonne nouvelle et c'est le début de notre renaissance. Non, Dieu ne s'exprime ni dans la puissance, ni dans la raison. Il faut vraiment lâcher prise et accepter la déraison. La puissance créatrice de Dieu est sa capacité à accueillir, à justifier tout homme, non plus en fonction de ses qualités, ni de ses actes. Sa bienveillance s'épanouit hors de toute récompense, donc hors de toute compétition. La grâce que Dieu nous donne de cette manière est sans limite. Malheureusement, ça ne veut pas dire que tout un chacun la reçoive et la reconnaisse. Car cette grâce s'appelle la foi. Et hélas, ça n'est pas par la rétribution de l'effort, ni par la spéculation intellectuelle de la raison que nous y accédons. La pire option est la matière. En la matière étant l'attitude du philosophe Pascal, avec son fameux pari qui consiste à spéculer mathématiquement sur l'existence de Dieu et sur sa rétribution divine. J'envoie la pièce, pile, Dieu n'existe pas, je ne perds rien. De l'autre côté, face, Dieu existe, je gagne l'infini. La croix est le symbole de l'abandon, de la non-puissance, du non-raisonnement. C'est la voie de la faiblesse de l'ego. Sans sa puissance, sans puissance apparente de Dieu, pas de rétribution. Et sans rétribution, la grâce est gratuite. Et Paul va encore plus loin. Or, en ce qui concerne la loi, je suis mort. D'une mort provoquée par la loi elle-même, afin que je puisse vivre pour Dieu. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'est au moyen que de la loi que l'on peut être rendu juste aux yeux de Dieu, alors Christ est mort pour rien. Ce que décrit Paul dans le symbole de la croix n'est pas la transformation d'un prophète en Dieu, le fameux sceau pascal. C'est la transformation irrémédiable de notre foi, de notre propre rapport à Dieu et à sa grâce. Du scandale de la croix jusqu'au moment du sceau pascal, c'est toute l'image du divin qui est reconstruite. Rien ne sera plus comme avant, car c'est un Dieu vivant, palpitant, que Dieu nous offre. Un Dieu de la vie et non un Dieu de la procédure, du code moral ou du raisonnement. Or, la vie n'a pas de visage. Or, plutôt, elle les a tous. On ne peut que la ressentir et la vivre. La renaissance de Paul en route vers Damas fait écho à notre propre renaissance à Dieu, Dieu qui nous justifie sans aucune contrepartie. Alors évidemment, souvent la grâce chemine bizarrement. Victor Hugo avait même fini par conclure que Dieu est un phare à éclipse. Ne faudrait-il pas plutôt dire que la perception de Dieu, la foi, est un phare à éclipse ? Quand elle s'éloigne, je relis Paul. Dans ses pas, j'oublie un temps mon satané penchant pour la raison. Je renonce à tout enjeu, à toute récompense. Et tout devient soudainement plus léger, plus joyeux. En plus d'être un formidable penseur, lui qui comble du paradoxe dénonce si bien la raison, Paul est un prodigieux libérateur. Lisez-le, relisez-le. On peut débattre de bien des choses, mais peut-on vraiment se passer de la grâce de Dieu, se passer du sceau vers la foi ? Merci, mon cher Paul, pour nous avoir ouvert les portes du royaume d'absurdie. Merci, Paul, pour tes colères salvatrices, pour ta joie, pour ta jubilation. Notre renaissance en Dieu est libération et joie. Voilà la bonne nouvelle. Amen.
Levons-nous pour entonner le cantique 4508. À la page 688, nous chanterons les quatre strophes. Tu m'as aimé, Seigneur. Et on écoute Marie-Yvonne le jouer en entier parce que je ne suis pas sûr que tout le monde le connaisse. Alors, la confession de foi. Nous allons. J'ai oublié la confession de foi, mais c'est très simple. Il suffit d'en lire une qui est à la fin du livret. Donc, à vous de choisir, tiens, ce serait intéressant. Quel numéro tu veux
Je choisis bien la 4.
La 4, allez, c'est parti.
Attends, faut le temps
H4. Ouais. Je crois en Dieu. Qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la bonté et la beauté. Il est la source de vie. Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus le serviteur mort et ressuscité pour le pardon et la liberté de tous les hommes. Il est le prix de notre vie. Je crois en Dieu qui, par son Esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Amen. Et nous chantons le spontané « Mon seul abri, c'est toi ».
Mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi.
Voici le moment de l'offrande. Nous pouvons, par notre don, manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Ô Christ, qui t'es donné toi-même pour nous, afin de nous racheter de tout mal et de faire de nous un peuple qui t'appartienne en propre, accueille avec bonté cette offrande, comme l'humble témoignage de notre amour. Amen. Alors voici le temps des annonces. Alors tout d'abord, merci Olivier pour ta prédication. C'était super. Merci Marie-Vonne pour ta musique, c'était super aussi. Merci Florence et Yvon Serge de nous avoir super bien accueillis. Merci, je ne sais pas, est-ce que c'est Christine, c'est qui a apporté ces belles fleurs? Non. Merci à la personne qui les a apportées. Et puis merci à tous, parce que sans votre présence, c'est un petit peu compliqué. Hein. Donc on est content que vous soyez là. Voilà. Alors, là, il y a toujours. Moi, je suis spécialiste d'avoir 12 000 annonces. Là. Pierre m'a donné un cadeau. Alors, donc, ça, c'est bon. Alors, donc, il y a le conseil presbytéral. Alors, c'est le 16. Hein, c'est quel jour? C'est jeudi, c'est ça? je crois. Chorale mardi à 19h15, prière mercredi à 18h. Et puis il y a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui, cette semaine, puisqu'il y a aussi les amitiés judéo-chrétiennes à 20h. Donc vous pouvez enchaîner à la Puya, faiseur de paix avec. Alors c'est le Rachi, c'est un rabbin, c'est ça? Je me trompe pas? C'est ça?
Du
11e siècle. D'accord. Et il y a encore Bible en parlage vendredi, donc on est gâté. Vendredi à 18h30. Et puis on termine la semaine, enfin on ne termine pas tout à fait la semaine encore, je crois que c'est le dimanche, non, c'est le dimanche, c'est le premier, c'est le dernier jour, c'est en débat. Alors, donc il y a encore samedi, la formation des prédicateurs laïcs, c'est Magali Carlier qui va venir parler de je ne sais plus quoi, la chef.
Le rire.
Le rire dans la Bible,
ouais.
C'est ça.
Ouais.
Donc ça promet d'être vraiment très intéressant, c'est de 9h à je ne sais pas quelle heure. 15h, voilà. C'est tout ouvert, hein, c'est pas seulement pour les prédicateurs, c'est vraiment ouvert. Hein. Les cultes, et puis dimanche prochain, donc le culte des familles, avec les activités des différents groupes. Notez qu'aujourd'hui, si notre pasteur n'est pas là, c'est parce qu'il est en synode, mais ça je vous l'ai déjà dit. Et puis, il aurait dû y avoir éventuellement cet après-midi un rassemblement pour la paix du groupe interreligieux. Mais finalement, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ça ne sera pas cette semaine. Ça sera donc peut-être le 19, tu sais quelle date?
Non, ce sera le 26 ou le
3. Le 26, d'accord. Le 26. Voilà, on va vous confirmer la date et puis le lieu aussi, l'horaire, enfin tout. Oui, c'est pour ça que la date aujourd'hui c'était vraiment pas possible, quoi, pour plein de raisons. Voilà. Mais c'était bien qu'on ait le temps de bien préparer. Et je termine avec là, à moins qu'il y ait d'autres annonces, vous me direz après, mais il y a aussi l'appel de la CAT, hein, l'appel mensuel. Donc il s'agit de quelqu'un qui est de deux personnes qui sont en Colombie et qui ont disparu. Il s'appelle Abencio Caicedo et Edinson, Valencia. Donc, vous pouvez récupérer sur les présentoirs ou demander à Thierry, qui est là-haut, le petit dépliant à envoyer. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Oui.
Oui, signaler, chacun étant dit, de répondre ou non, mais signaler quand même à l'appel de la Fédération protestante de France et de l'Église protestante de France, le rassemblement cet après-midi à 15h à Annecy, contre l'antisémitisme.
Merci, j'avais pas là. Oui. Et encore une annonce, et donc je laisse la parole à Claudia.
Comme vous pouvez deviner, c'est pour le CERA. Bon, d'abord, on va continuer. Il nous reste quelques trucs qu'on n'a pas vendus. Donc, la semaine prochaine, il y aura encore une petite stand dimanche pour quelques confitures, etc. Et surtout, je voulais dire qu'on va faire quand même ce mois-ci, on va faire un thé, donc le mardi 21, comme d'habitude dans la salle au-dessus à 14h30. Et en fait, c'est pour un peu rencontrer le pasteur ou le connaître un peu mieux. Donc, ce serait chouette si quelques-uns pourraient assister. Voilà, c'est une occasion. OK, donc ce n'est pas ce mardi, mais c'est le mardi en 8. OK, merci.
Merci Claudia. Donc, si c'est terminé, nous allons entrer dans le temps de la Sainte Cène. C'est pour nous bonheur et joie de te louer, Seigneur, car tu nous donnes la vie et l'espérance. Tu as envoyé ton Fils et il est devenu notre frère. Tu as envoyé ton Esprit et il est devenu notre paix. C'est pour nous mystère et émerveillement que toi, Seigneur, tu sois notre Père, que Jésus-Christ soit le pain vivant donné au monde, que l'Esprit Saint demeure au plus secret de nous-mêmes. Aussi, nous t'adorons, Seigneur. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jésus-Christ, notre Seigneur, met ta bénédiction sur le pain que nous rompons et sur notre communion les uns avec les autres. Renouvelle notre vie en commun, afin qu'ensemble nous partagions les Écritures et que nos cœurs brûlent au-dedans de nous, tandis que nous sommes en chemin. Et nous prions les uns pour les autres. Seigneur, je reste avec toi, même si le doute étale ses mauvais brouillards sur les chemins de mon existence. Je reste avec toi, même si la souffrance plante en moi ses crocs d'absurdité et me fait crier à ton absence. Je reste avec toi, même si la danse de l'existence m'emporte dans le tourbillon des apparences humaines, superficielles et illusoires. Je reste avec toi, même si d'autres voix, tellement séduisantes, viennent chanter à mon cœur et solliciter mon adoration. Seigneur, je reste avec toi par fidélité, par promesse d'amour et parce que toi, Seigneur, tu es fidèle toujours à l'amour promis. Et nous nous permettons de redire avec une ardeur renouvelée la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le spontané.
Seigneur Jésus, par ton esprit.
À prendre la scène avec lui et à partager les uns avec les autres. Ainsi, selon la tradition de notre Église, toutes et tous sont invités. Ce repas ne nous appartient pas. Il n'est la propriété d'aucune Église. Il nous est offert par grâce, par Christ, le Seigneur du monde. Par ce repas, nous confessons notre foi en Christ, c'est-à-dire que nous reconnaissons Jésus comme Seigneur de nos vies, et que nous nous savons enfants de Dieu, notre Père à tous, et que nous essayons de mettre nos vies au service de la parole de Dieu. Nous vous invitons à former un cercle autour de la table de communion. Si toutefois vous ne désirez pas participer au pain et au vin de la scène, n'hésitez pas à prendre place dans le cercle pour vous associer à la communion. Les accueillons distribuent le pain et des gobelets individuels de jus de raisin. Faites simplement un signe, un sourire, un regard, si vous ne souhaitez pas prendre le pain ou le vin. Bien sûr, vous êtes aussi libre, si vous le préférez, de rester assis à vos places. Voici le pain de vie. Celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Voici la coupe de la nouvelle alliance. Celui qui boit au Fils a la vie éternelle. Thank you.
Que ce repas, Seigneur, nous donne un nouveau regard. Après t'avoir rencontré, après avoir partagé la scène, puissions-nous te rendre grâce en ayant un regard nouveau sur les hommes, nos frères, en ayant ton regard. Alors, à la lumière de l'Esprit, nous partagerons nos joies, comme nos peines, nos projets et nos luttes, pour travailler à la venue de ton règne. Nous allons recevoir l'envoi et la bénédiction de la part du Seigneur avec Hébreux 12, les versets 1 et 2. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui mène à la perfection.
Que le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit vous bénisse, vous accompagne et vous protège tout le long de votre vie. Allez en paix. Amen.
Et nous chantons le dernier spontané. Thank you.